Pierre ouvre aux nations la porte du royaume des cieux. Histoire de Corneille. Saul, dont nous avons vu la merveilleuse conversion, avait bien été choisi de Dieu pour porter l'évangile aux nations. Mais c'est l'apôtre Pierre qui, sur l'ordre du Seigneur, leur ouvrit le premier d'une manière publique la porte du salut. Le Seigneur Jésus, étant encore sur la terre, lui avait dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Le jour de la Pentecôte, Pierre avait ouvert aux Juifs le royaume des cieux en leur annonçant la rémission des péchés au nom de Jésus, et il allait aussi introduire les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, dans la même bénédiction. Mais, pour cela, Pierre avait besoin d'un ordre formel de la part de Dieu, car les Juifs n'avaient pas de communication avec les nations. Ils pensaient que les bénédictions divines leur appartenaient à eux seuls, et Pierre lui-même n'avait pas encore compris que le Seigneur voulait que la rémission des péchés fût prêchée en son nom à toutes les nations, ni ce que signifiait cette parole de Jésus « Et moi, si je suis élevé de la terre, sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi, de quelque nation qu'ils fussent. C'est la croix qui a détruit la barrière entre les Juifs et les païens, en montrant que les uns, comme les autres, étaient des pécheurs et avaient également besoin d'un sauveur. C'est à Césarée, et non à Jérusalem, qu'eut lieu ce fait important de la réception des gentils dans l'assemblée, ou l'Église chrétienne, et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous en dit. La ville de Césarée était située au bord de la mer, vers le nord-ouest et à 120 kilomètres de Jérusalem. Il n'en reste actuellement que des ruines, mais au temps des apôtres, elle était grande et importante. C'était là que résidait le gouverneur romain et que se trouvait le siège de l'administration civile et militaire du pays. Bien qu'un certain nombre de Juifs s'y fussent établis, c'était donc une ville essentiellement païenne, mais qui convenait ainsi au dessein du Seigneur. Dans cette ville se trouvait un officier romain nommé Corneille. Il était pieux et craignait Dieu, sans être cependant un prosélyte juif. Nous ne savons pas d'où lui était venue la connaissance du vrai Dieu. Peut-être les Écritures de l'Ancien Testament lui étaient-elles tombées entre les mains. À cette époque, il y avait, parmi les païens, bien des âmes qui étaient dégoûtées du culte des idoles et que Dieu préparait pour des choses meilleures. Par le moyen des Juifs dispersés, la connaissance d'un Dieu unique et créateur se répandait, et ses âmes la recevaient avec empressement. La piété de Corneille se manifestait dans sa vie. Toute sa maison craignait Dieu comme lui. Il avait même dans sa cohorte des soldats pieux, preuve de l'influence qu'il exerçait autour de lui. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ces deux choses, l'amour du prochain et la dépendance de Dieu, démontraient bien la réalité de sa piété. De plus, toute la nation des Juifs lui rendait un bon témoignage. Il était loin de les mépriser ou de les persécuter, comme le faisaient volontiers les Romains. N'était-ce pas un beau caractère? Il nous rappelle cet autre centurion romain qui vint demander au Seigneur la guérison de son serviteur malade et qui donna à Jésus l'occasion d'annoncer d'avance l'introduction des nations dans le royaume des cieux. Corneille était donc un homme dont le cœur était tourné vers Dieu, mais cela n'est pas le salut. Corneille n'était pas sauvé par sa piété, ses aumônes et ses prières. Mais Dieu, qui avait commencé la bonne œuvre en lui, voulait aussi l'achever et lui faire entendre la bonne nouvelle du salut par Christ. Comme il était un après-midi, vers 3 heures, en jeûne et en prière dans sa maison, il vit clairement en vision un homme couvert d'un vêtement éclatant et se tenant devant lui. C'était un saint ange de Dieu, un messager que Dieu lui envoyait en réponse à ses prières. Les anges, est-il dit, sont des esprits administrateurs, des serviteurs que Dieu emploie en faveur de ceux qui vont hériter du salut. L'ange n'était pas chargé d'annoncer l'évangile à Corneille, mais de lui faire connaître l'homme que Dieu avait choisi pour cela. C'était déjà un heureux message pour le centurion romain. « Corneille, lui dit l'ange. » Corneille fut effrayé de cette apparition soudaine dans le lieu retiré où il priait. « Qu'est-ce, Seigneur ? » demanda-t-il, reconnaissant bien le caractère céleste de celui qui parlait. « Ta prière est exaucée, et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu, dit le messager divin. Dieu répond toujours et partout à la prière sincère. Il a les yeux sur ceux qui sont droits de cœur et qui agissent fidèlement, selon la connaissance qu'ils ont de lui. Ceux qui le craignent lui sont agréables. Le craindre est le commencement de la sagesse. » Quelle était donc la prière de Corneille que Dieu avait exaucée? La suite nous le montre. Corneille désirait mieux connaître Dieu. Il avait soif de salut, et Dieu allait répondre à ses besoins de son cœur. L'ange continua à lui parler en lui disant, « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui sera surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera et te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ainsi, être sauvé était ce que désirait Corneille. Est-ce là l'ardent désir de votre cœur? Alors Dieu vous exaucera aussi. Aussitôt que l'ange se fut retiré d'avec lui, Corneille, le cœur sans doute rempli d'émotion, de joie et de reconnaissance envers ce Dieu si bon qui avait exaucé sa prière, envoya à Joppé deux des gens de sa maison avec un soldat pieux, après leur avoir raconté tout ce qui lui était arrivé. Quelle touchante intimité existait entre ce maître et ses serviteurs. C'est qu'eux aussi craignaient Dieu et avaient ainsi un intérêt bien grand dans la mission qu'ils avaient à accomplir. Représentons-nous la sainte impatience qui remplissait le cœur de Corneille en attendant la venue du serviteur de Dieu qui devait lui annoncer le salut. Tandis que Corneille attend et que ses serviteurs sont en route vers Joppé, faisons un peu connaissance avec cette dernière ville et ce qui s'y passait. Joppé, ou Jaffo, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Césarée, était une ville très ancienne, située dans une plaine riche et fertile. Il en est déjà question dans le livre de Josué, comme appartenant à la tribu de Dan. C'était un port de mer fréquenté. Là, au temps de Salomon et d'Esdras, étaient amenés les bois de cèdre du Liban pour la construction du temple. Là, le prophète Jonas s'était embarqué pour fuir de devant l'Éternel, auquel il ne voulait pas obéir. De nos jours, la ville et le port existent encore sous le nom de Jaffa et ont une assez grande importance. Beaucoup de navires y abordent pour le commerce et amènent des pèlerins et des voyageurs qui, de là, se rendent à Jérusalem. Une note en bas de page. Rappelons que tout ceci a été écrit il y a près de 100 ans. Depuis, la grande ville de Tel Aviv est née et s'est développée aux portes de Jaffa. Elle est aujourd'hui la plus peuplée de l'État d'Israël, constituée en 1948. De son côté, Lydd, dont il va être question, est devenue une très importante localité. Reprise de l'esquisse. Voici comment l'apôtre Pierre avait été conduit à Joppé. Comme il visitait les assemblées de Judée, il arriva à Lydd, ville autrefois nommée Lod et située à une vingtaine de kilomètres de Joppé, sur la route de Jérusalem. C'est maintenant encore un bourg florissant, comptant plusieurs milliers d'habitants, entouré de riches vergers d'oliviers, de grenadiers, de figuiers et d'autres arbres, au milieu d'une contrée très fertile. Là, Pierre guérit, au nom de Christ, un homme paralytique nommé Aîné, malade depuis 8 ans. Ce fut le moyen dont Dieu se servit pour attirer à l'Évangile un grand nombre de gens de l'Ide et du Saron, la contrée environnante. Ils se tournèrent vers le Seigneur. Ainsi s'accroissait l'assemblée chrétienne. Mais Pierre devait aussi exercer son ministère à Joppé. Dieu voulait déployer aussi dans cette ville sa merveilleuse puissance et sa grâce, et voici de quelles circonstances il se servit pour y conduire l'apôtre. Il y avait, dans l'assemblée de Joppé, une pieuse femme nommée Dorcas. Sa vie était tout entière consacrée au Seigneur. Elle s'occupait des pauvres parmi lesquels elle répandait d'abondantes aumônes et des veuves indigentes pour lesquelles elle travaillait, leur faisant des robes et d'autres vêtements. Elle tomba malade et mourut. Mais, comme nous le verrons, sa mort, grande épreuve pour les disciples, devait être pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il en est toujours ainsi des épreuves que Dieu envoie à ses enfants. Les chrétiens de Joppé apprirent que Pierre était à Lydde, à peu de distance d'eux, et aussitôt ils le firent chercher, en lui disant le deuil dans lequel il se trouvait. Pierre arrive à Joppé, fut conduit dans la chambre haute où se trouvait le corps de Dorcas, entouré des veuves qui pleuraient leur ami délogé. L'apôtre, sans doute ému de compassion, comme autrefois son divin maître, fit sortir tout le monde, et, seul avec son Seigneur, il le pria d'exercer sa puissance pour consoler ceux qui pleuraient, de même qu'autrefois il avait consolé la veuve de Naïn, et Marthe et Marie. Et Pierre savait que sa prière était exaucée, car le Seigneur avait dit « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai ». Aussi, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, ou Dorcas, lève-toi ». Et la morte revint à la vie. Tout Joppé eut connaissance de ce déploiement merveilleux de la puissance de Dieu par le moyen de l'apôtre, et là aussi plusieurs crurent au Seigneur. Pierre resta dans cette ville quelques jours avec l'assemblée et les nouveaux convertis, et c'est là, chez Simon, le corroyeur, que les envoyés de Corneille devaient le trouver. Au moment où les envoyés de Corneille approchaient de Joppé, Pierre, vers le milieu du jour, était monté pour prier sur le toit en terrasse de la maison. Il eut très faim, et, tandis qu'on lui apprêtait à manger, il vit, dans une extase ou ravissement d'esprit, le ciel ouvert et une sorte de récipient, comme une grande toile tenue par les quatre coins, descendant sur lui et renfermant des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux, tous animaux impurs selon la loi, et dont un juif ne devait pas manger la chair. En même temps, une voix se fit entendre du ciel disant à Pierre, « Tue et mange !» Pierre, en juif fidèle, répondit, « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Mais la voix céleste, s'adressant de nouveau à lui, dit, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Trois fois la vision se répéta, afin de bien montrer à l'apôtre l'importance de ce que Dieu voulait aussi lui enseigner. Mais il ne comprenait pas d'abord, et il était en perplexité pour savoir ce que signifiait cette vision. Dieu allait le lui montrer. Les envoyés de Corneille arrivaient en cet instant devant la maison et demandaient si Simon, surnommé Pierre, demeurait là. En même temps, l'Esprit-Saint lui dit, « Voilà, trois hommes te cherchent. Mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » C'est ainsi qu'en ces temps l'Esprit-Saint, qui demeurait en eux, guidait directement les serviteurs de Dieu dans leur ministère. C'était particulièrement nécessaire dans un cas tel que celui-ci, car les apôtres, juifs fidèles, encore attachés aux traditions, n'auraient jamais voulu aller chez un païen sans un ordre exprès de Dieu. Aujourd'hui encore, les serviteurs de Dieu, fidèles, qui s'attendent à lui et le prient, peuvent bien compter que Dieu les dirigera dans ce qu'ils ont à faire pour lui. Pierre descendit donc et écouta le message de Corneille. Il comprit alors la signification de la vision qu'il avait eue. Il vit que la barrière entre juifs et nations était renversée et que ces païens, estimés impurs et représentés par ces animaux dont ils n'avaient pas voulu manger, étaient purifiés par Dieu lui-même pour avoir aussi part à la grâce du salut. Pierre n'hésita donc pas à loger les serviteurs de Corneille cette nuit-là, et, le lendemain, partit avec eux, accompagné de 6 frères de Joppé. De cette manière, il y avait plusieurs témoins de ce que Dieu, dans sa grande grâce, allait opérer en faveur de pauvres païens, plongés jusqu'alors dans les ténèbres et l'ombre de la mort, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Que se passait-il à Césarée? Corneille n'avait pas voulu être seul à profiter du message que Dieu lui envoyait par Pierre. Il avait réuni ses parents et ses intimes amis. Lorsque nous avons vraiment à cœur le salut de notre âme, nous désirons que les autres entendent comme nous l'Évangile. Pierre étant entré dans la maison, Corneille alla au-devant de lui et se jeta à ses pieds pour l'adorer. Mais l'apôtre le releva, en lui rappelant qu'il n'était aussi qu'un homme. L'adoration n'est que pour Dieu seul. Pierre suivit Corneille dans le lieu où étaient réunis ceux qui désiraient entendre la bonne nouvelle. Il commença par leur rappeler que, comme juif, il n'aurait pu venir auprès d'eux, mais que Dieu lui avait montré qu'il ne fallait appeler aucun homme impur ou souillé. Ensuite, il leur demanda pour quelle raison il l'avait fait venir. Corneille lui raconta la vision qu'il avait eue, l'ordre que l'ange lui avait donné, et termina en disant « Tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. Quel sérieux, n'est-ce pas? Quel sentiment de la présence de Dieu, et quel désir d'entendre sa parole. Puissions-nous avoir ces dispositions quand un serviteur de Dieu, envoyé de sa part, vient nous parler, et être en présence de Dieu pour écouter sa parole. Ce fut une réunion bénie où l'Esprit-Saint agit avec puissance par la parole de l'apôtre. Pierre commença par reconnaître avec admiration, devant ses auditeurs gentils, que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Puis il leur annonça l'Évangile, la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, le Seigneur de tous, du gentil comme du juif. Il leur dit comment Dieu avait envoyé au fils d'Israël la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, comment Jésus de Nazareth, loin du Saint-Esprit et de puissance, allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant ceux que le diable opprimait, comment les Juifs l'avaient fait mourir sur la croix, mais aussi comment Dieu l'avait ressuscité et établi juge des vivants et des morts. C'est donc Jésus, notre adorable Sauveur, dans sa vie sainte, dans sa mort sur la croix maudite, dans sa résurrection et son exaltation glorieuse, que Pierre présente à ces gentils qui avaient soif de salut, de paix et de vie. Or Jésus répond seul à ses besoins de l'âme. Il a dit lui-même, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 37. Connaître vraiment Jésus dans son cœur est ce qui rend heureux. Pierre termine son discours si simple par ces paroles, tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Quiconque, ce n'est pas seulement les Juifs. Les gentils, gens des nations, sont aussi compris dans ce mot, et vous aussi, lecteurs qui êtes un pécheur, vous êtes un de ces quiconques qui a besoin de pardon. Et, si vous croyez en Jésus, vous recevrez la rémission de vos péchés, chose la plus nécessaire, la plus précieuse, sans laquelle on est à jamais séparé de Dieu. Quand Corneille et ses amis entendirent les dernières paroles de Pierre, qui proclamaient la grâce miséricordieuse de Dieu, sans doute ils les saisirent avec joie dans leur cœur et crurent, car Pierre parlait encore que le Saint-Esprit tomba sur ceux qui l'écoutaient. On pouvait dire d'eux comme des Éphésiens, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Éphésiens 1, verset 13. C'est le grand privilège de tout croyant de devenir un temple où le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Puissions-nous tous jouir de cette bénédiction. Les Juifs, venus de Joppé avec Pierre, s'étonnèrent de voir les gentils participer à la même grâce qu'eux. Mais ils n'en pouvaient douter. La puissance de l'Esprit-Saint se montrait dans ces nouveaux convertis, en ce qu'ils parlaient des langues étrangères, et que leur bouche s'ouvrait pour magnifier Dieu. Étant scellés du Saint-Esprit, ils faisaient donc partie de l'assemblée chrétienne, tout comme les Juifs. Aussi Pierre ordonna-t-il qu'on les baptisât au nom du Seigneur, ce qui était le signe extérieur de la réception dans l'assemblée. Pierre avait accompli sa mission à l'égard des nations. Il leur avait ouvert la porte, et maintenant Dieu, par le ministère de Paul et d'autres, allait introduire dans l'Église une grande quantité de ces pauvres gentils, jusqu'alors dans l'ignorance de Dieu. C'est du fruit de ces travaux que nous jouissons actuellement.